Le second couple du royaume.
Edin était une importante forteresse à trois enceintes, entrecoupée de fossés, hérissée de tours flanquantes, truffée de bâtiments, d'écuries, de greniers, de resserres, et reliée par plusieurs souterrains à la campagne environnante. Une garnison de 800 archers pouvait y tenir à l'aise. À l'intérieur de la troisième cour se trouvait la résidence principale des comtes d'Artois, composée de divers corps de logis somptueusement meublés. « Tant que j'aurai cette place, » avait coutume de dire Mao, « mes méchants barons ne viendront pas à bout de moi, ils s'useront bien avant que les murs n'aient cédé, et mon neveu Robert se leurre s'il pense que jamais je les laisserai s'emparer des dins. » « Edin m'appartient de droit et d'héritage, » déclarait de son côté Robert d'Artois. « Ma tante Mao me l'a volé, comme tout mon comté, mais je ferai tant que je le lui reprendrai. »
Lorsque les alliés, escortant le char de Jeanne de Poitiers et portant au bout d'une pique la tête du sergent Cornillot, parvinrent à la nuit tombante devant la première enceinte, leur nombre s'était réduit sensiblement. Le sire de Journy, prétextant qu'il devait surveiller la rentrée de son regain, avait quitté le cortège. Imité bientôt du sire de Givenchy, récemment marié, et qui craignait que sa jeune femme ne s'ennuyât ou ne s'inquiétât. D'autres, dont les manoirs se voyaient de la route, avaient choisi d'aller souper chez eux, entraînant leurs meilleurs amis et assurant qu'ils rejoindraient tout à l'heure. Les obstinés n'étaient plus guère qu'une trentaine, qui chevauchaient depuis de longs jours et se sentaient un peu las du poids de leurs vêtements d'acier. Ils eurent à parlementer un bon moment avant qu'on ne leur permît de franchir le premier corps de garde. Puis ils durent attendre encore, et Jeanne de Poitiers au milieu d'eux, entre la première et la seconde enceinte. La nouvelle lune s'était levée dans un ciel encore clair, mais l'ombre s'épaississait au fond des cours d'Edin. Tout était tranquille, trop tranquille même, au goût des barons. Ils s'étonnaient de voir si peu d'hommes d'armes. Un cheval au fond d'une écurie hennie, ayant flairé la présence d'autres chevaux. La fraîcheur du soir s'installait, où Jeanne reconnaissait les parfums d'enfance. Madame de Beaumont, dans le char, continuait à gémir qu'elle se mourait. Les barons discutaient entre eux. Certains estimaient qu'ils en avaient assez fait pour le moment, que l'affaire commençait à sentir le traquenard et que l'on aurait avantage à revenir en force un autre jour. Jeanne vit l'instant où elle allait être emmenée elle aussi en otage. Enfin, le deuxième pont-levis s'abaissa, puis le troisième. Les barons hésitaient. « Es-tu bien sûr que ma mère soit ici ?» souffla Jeanne à Béatrice d'Hirson. « Je vous le jure sur ma vie, madame. » Alors Jeanne pencha la tête hors du char. « Eh bien, messeigneurs, » dit-elle, « avez-vous perdu la hâte que vous montriez de parler à votre suzeraine, et le courage vous manque-t-il au moment de l'approcher ?» Ces paroles poussèrent les barons en avant, et pour ne pas démériter au regard d'une femme, ils entrèrent dans la troisième cour, où ils mirent pied à terre. Si préparé qu'on soit à un événement, il est rare qu'il survienne de la manière qu'on attendait. Jeanne de Poitiers avait envisagé de 20 façons le moment où elle se retrouverait en présence des siens. Elle s'était apprêtée à tout, à l'accueil glacial comme aux embrassements, à la grande scène de réhabilitation officielle comme à l'intime réunion de réconciliation. Pour chaque éventualité, elle avait construit son attitude et prévu ses paroles. Mais jamais elle n'avait imaginé qu'elle rentrerait au château de famille, escortée du désordre de la guerre civile et d'une dame de parage en train de faire une fausse couche. Lorsque Jeanne pénétra dans la grande salle éclairée au cierge où la comtesse Mao, debout, bras croisés, lèvres serrées, regardait s'avancer les barons, ses premiers mots furent pour dire « Ma mère, il faut donner secours à madame de Beaumont qui est en train de perdre son fruit. Vos vassaux lui ont causé trop violente peur. » Aussitôt, la comtesse chargea sa filleule Mao d'Hirson, une sœur de Béatrice qui était également de ses demoiselles de parage, d'aller quérir maître Hermant et maître Pavilly, ses physiciens particuliers, pour qu'ils portassent leurs soins à la malade. Puis, retroussant ses manches et s'adressant au baron, « Sont-ce là, méchant sire, des actions de chevalerie, que de vous en prendre à ma noble fille et aux dames de sa suite, et croyez-vous ainsi me faire fléchir ? Aimeriez-vous qu'on en usât de même avec vos femmes et vos pucelles lorsque elles cheminent par les routes ? Allons, répondez, et dites-moi quelle est l'excuse à vos forfaits pour lesquels je demanderai punition au roi ! »
Les alliés poussèrent Soistre en avant.
« Parle ! Dis ce que tu dois !»
Soistre toussa pour s'éclaircir la gorge. Il avait tant parlé, vitupéré, crié ses griefs, harangué ses partisans, que maintenant, au moment le plus important, la voix lui manquait.
« Or ça, madame !» commença-t-il d'un ton enroué. Nous voulons savoir si vous allez enfin désavouer votre mauvais chancelier qui étouffe nos requêtes et consentir à nous reconnaître nos coutumes, comme elles étaient du temps de Saint-Louis. »
Il s'interrompit parce qu'un nouveau personnage entrait dans la pièce et que ce personnage était le comte de Poitiers. La tête un peu inclinée vers l'épaule, il avançait à longs pas tranquilles. Les barons, qui ne s'attendaient pas à voir surgir ainsi le frère du roi, se tassèrent les uns contre les autres. « Messeigneur, » dit le comte de Poitiers. Il s'arrêta, ayant aperçu Jeanne. Il vint à elle et la baisa sur la bouche, de la façon la plus naturelle du monde, devant toute l'assistance, pour bien prouver par là que sa femme était pleinement revenue en grâce et que donc les intérêts de Mahaut étaient pour lui affaire de famille.
« Alors, messeigneurs, reprit-il, vous voici mécontents ?
Eh bien, nous aussi.
Alors, si nous nous entêtons de part et d'autre, et usons de violence, nous n'arriverons à rien de profitable. Ah, je vous reconnais, Bailliencourt, vous étiez à Lost. La violence est le recours des gens qui ne savent pas penser. Je vous salue, Caumont. Ah, mon cousin de Fienne, je n'attendais pas votre visite en telle compagnie. »
En même temps, il passait parmi eux, les dévisageant, s'adressant nommément à ceux qu'il avait déjà eu l'occasion de voir, et leur tendant la main à plat pour qu'ils y posassent leurs lèvres en signe d'hommage.